Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Des cas de naufrage, des bateaux et autres embarcations sont fréquents sur le fleuve Congo, les lacs et les rivières de la République démocratique du Congo. Et très souvent, le bilan de ces accidents est dramatique. Les derniers cas en date est celui de la collision des deux baleinières sur les lacs Maïndombé, qui a causé la mort de 17 personnes et plusieurs disparus, selon le vice-gouverneur de la province de Maïndombé. Voilà. Et c'est un cas parmi plusieurs. C'est fréquent dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les normes de sécurité qui doivent être observées par les navigateurs pour éviter telles situations? Gabriel Mokango est directeur technique à la régie des voies fluviales. Monsieur Gabriel, pouvez-vous nous rappeler les normes de sécurité de la navigation?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. La première des choses, c'est la prudence. Nous recommandons aux navigateurs la prudence et surtout ne pas naviguer de nuit pour des unités qui n'ont pas de projecteurs pour ne pas connaître des incidents ou accidents comme nous le déplorons, le cas du lac Maïndombé qui a fait qu'il y ait mordant.
Voilà, la prudence, et puis ne pas naviguer la nuit. Pourquoi ne faut-il pas naviguer la nuit?
Nous disons que cette restriction, qui n'est pas absolue, mais se dit au fait que présentement, nous n'avons pas un baliseur opérationnel. Et que le signaux de balisage qui ont été placés pendant la petite décrie de janvier-février, à certains endroits, ne sont plus valides. Et du moment qu'il n'y a pas une autre rotation du baliseur, il faut que le navigateur fasse cette navigation le jour où ils ont une meilleure vision et ça leur permettrait d'éviter bien des cas. Et pour ce qui concerne les embarcations en bois, notamment le baleinière et autres coques, et comme ils n'ont pas de projecteurs, nous pensons qu'ils peuvent observer cette instruction, ne pas baliser, ne pas naviguer la nuit, pour ne pas entrer en collision, comme le cas de ces deux baleinières qui se sont heurtés, qu'il y a eu trématage au niveau du lac Maïdombé.
Voilà, c'est parce que ces baliseurs ne sont pas dotés des projecteurs. Et pourquoi, d'après vous, certains navigateurs préfèrent naviguer la nuit? C'est pour gagner des temps et arriver vite à destination?
Bon, il y a plusieurs raisons. Entre autres, nous pouvons dire qu'ils veulent gagner le temps, naviguer la nuit. Et tout le monde sait que la nuit fait très frais, le moteur répond du mieux. Mais autre chose, pour les embarcations qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de l'inspection de la navigation, ils préfèrent naviguer la nuit pour éviter ce qu'ils disent tracasserie. Bon, le contrôle de documents de navigation, de documents de bord, pour nous entre dans le cadre normal de l'exercice de leurs fonctions, mais les armateurs et autres navigateurs disent qu'ils sont tracassés. C'est comme ça, la nuit, les bureaux de l'État sont fermés. Ça leur permet de passer d'un point à l'autre incognito.
Voilà, donc on retient, vous avez dit il faut la prudence, ne pas naviguer la nuit. Quelles sont les autres normes de sécurité à observer?
Par ces temps ici, où les plans d'eau sont en régression ou réduction sensible, il faut que le commandant s'assure que la route qu'il emprunte compte tenu de son sens marin, et que c'est là où il trouve les profondeurs. Et une reconnaissance de la passe n'est pas à négliger. Par exemple, emprunter une pirogue qui précède l'embarcation pour pouvoir sonder et la passe et pouvoir guider le bateau.
Mais généralement, les commandants ont dans l'embarcation certaines personnes qui ont pour tâche de jauger les niveaux.
Oui, effectivement, ils ont de vigie sondeur avec une canne qui est graduée, qui leur permet de pouvoir connaître la profondeur sur le chenal de navigation. Mais vous voyez, parfois, on a des convois qui sont de plusieurs longueurs. Ah, c'est toujours mieux que quelqu'un précède pour qu'on ne soit pas surpris par un banc de sable et autres, et surtout quand on est à la descente et en pleine vitesse.
Mais certaines personnes disent qu'à la base de ces accidents, on déplore aussi la surcharge.
Bon, ça c'est l'éternel problème qui revient. C'est l'éternel problème, c'est le non-respect. Les armateurs qui sont des opérateurs économiques qui préfèrent prendre autant de charges et que nous, au niveau de la RVF, sur chaque axe fluvial qui y est important, notamment le fleuve et la rivière Kasaï, nous délimitons le tirant d'eau. Par exemple, actuellement sur la rivière Kasaï, la dernière lecture qui a été faite nous indique que nous sommes à 0,80 mètres à l'échelle de Dima, Dumbu, ce qui fait que pour passer dans la passe de Kandolo, vous n'avez plus que 2,10 mètres. Parce que le brassage est là-bas et c'est de 1,30 m. Et c'est ce qui pourra nous demander de limiter le chargement ou le tirant d'eau à terme approprié, de manière à ce que le bateau qui a chargé puisse passer sur cet endroit et pouvoir continuer son parcours normalement. Il en est de même de la passe rocheuse de Gouji sur le fleuve Congo, un peu en aval de l'Issala, où il faut se référer à l'échelle de l'Issala. Ça, c'est théorique, c'est connu. Donc, le navigateur doit s'informer s'il est à la montée ou à la descente par rapport à cet endroit, quel peut être le chargement. Et cela éviterait bien de désagréments. S'ils n'ont pas ce genre d'informations, et c'est tout à fait normal qu'ils éprouvent de difficultés à la descente, ou ils cognent sur le banc de roche, ou ils échouent sur le banc de sable.
Voilà, par exemple, dans cette période des décrues, vous avez dit que le baliseur est en panne, alors il sera difficile à bon nombre, à certains navigateurs de pouvoir voguer calmement en cette période.
Oui, nous sommes conscients de la situation parce que nous avons deux baliseurs qui sont au niveau de la chanite en réhabilitation, mais nous pensons que le premier baliseur, le baliseur Lomela, ne pourrait sortir de là qu'au moins fin juillet. Et nous avons un autre baliseur, le baliseur Congo, qui est au chantier naval de la SCTP. Et celui-là, nous pensions l'avoir fin juillet, mais ça tarde. Et le troisième baliseur qui est chez nous, en carénage, le baliseur Mongala.
Alors, monsieur,
ce qui fait
oui,
que
monsieur,
là,
monsieur
nous,
Gabriel,
nous n'avons pas un baliseur.
Monsieur Gabriel, qu'est-ce qui fait que tous ces baliseurs tombent en panne tout le temps?
Bon, ça a une durée de vie. Il faut dire que ce sont des baliseurs que nous avons acquis vers les années 90. Malgré que nous avons essayé de faire de revision de moteur, et ça n'a pas été. Et comme ça, dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité financé par l'Union européenne, on a jugé bon qu'on fasse une réhabilitation avec une remotorisation, mettre de nouveaux moteurs pour donner une nouvelle vie à ces engins de servitude. Il en est de même avec le PTM, avec la Banque mondiale, qui a demandé que le baliseur Mongala soit totalement caréné et remotoriser. C'est ce que on est en train de faire, mais ça prend un peu plus du temps. Mais nous pensons que quand ces balisères sortiront, ils pourront faire un peu longtemps, comme ça sera dans l'état tout neuf.
Voilà. Alors parlons de ces baleinières qui naviguent sur les eaux de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces baliseurs répondent les normes de fabrication, offrent plus de sécurité aux passagers?
Bon, disons non. Là, je parle sous contrôle. Il y a pas beaucoup d'ateliers de fabrication de baleinières, à ma connaissance, qui fabriquent baleinières suivant les normes. Et ce qui a fait qu'au niveau de la CICOS, qui est un organisme régional au niveau de l'Afrique centrale, pour le bassin du Congo, on a mis en place des normes de construction des unités ou des embarcations en bois, et même pour des unités en tôle navale. Et que d'ici là, ça sera publié, parce que c'est le Bureau international Veritas qui a proposé le document, et on va demander que toutes les constructions suivent ces normes. Mais maintenant, ce sont des constructions de fortune, hein, qui ne respectent pas les normes, mais dedans, il y a la surcharge, ça c'est le premier point, et la réglementation même, ne sont pas suivies. Et ces embarcations qui n'ont pas de projection, de projecteurs pour naviguer la nuit, naviguent la nuit et ils transportent aussi autant de personnes qui ne sont pas reconnues ni assurées. Ce qui fait que ils passent outre toute la réglementation qui est mise en place. Et c'est seulement quand il y a un cas d'accident qu'on est informé et nous déplorons. Mais en amont, pour que tout le monde prenne des précautions, des dispositions utiles, de manière à éviter ce drame, les gens sont inconscients. Et cette inconscience caractérisée que nous amène à des cas que nous avons connus dernièrement.
Et dans ces baleinières, l'équipage, comment s'organise l'équipage? Est-ce qu'il y a un capitaine? Il y a des matelots? Comment ça se passe exactement?
Bon, généralement, il y a un conducteur, celui qui est derrière avec leur bord. Il peut se faire assister de quelqu'un, mais il y a un matelot qui est devant, avec la canne graduée pour sonder. Et c'est d'ailleurs lui qui indique la voie au conducteur. Et compte tenu de la surcharge, généralement, le conducteur n'a pas une bonne vue, lui. Donc, il se réfère plus à celui qui est devant, qui lui demande de venir ou bien d'aller côté bâbord ou tribord. Lui-même, il n'a pas cette maîtrise pour pouvoir apprécier que la distance qui le sépare d'un obstacle. Et croyez-moi, c'est que fait que quand il y a un obstacle devant, c'est difficilement qu'il l'évite. Mais quand vous voyez, par exemple, des constructions en tôle navale, vous avez, en dehors de la coque, qui est la partie principale de l'unité, mais vous avez la superstructure avec une timonerie ou passerelle. Ce qui fait que le commandant qui conduit le convoi, lui, il est au-dessus, il a une meilleure vision, il sait lire le plan d'eau, il sait lire ce qu'il y a devant lui, même s'il fait des manœuvres d'accostage, il a une large vision, ce qui n'est pas le cas avec des baleinières en bois que nous avons entre temps encore en navigation.
Mais lorsque, par exemple, on navigue et qu'il y a une autre embarcation qui vient dans la même direction, est-ce qu'on ne peut pas le sentir bien avant et prendre des précautions pour éviter une catastrophe?
Pendant les jours, c'est vraiment facile parce que vous voyez. Et le code de la navigation a prévu des dispositions en cas de trématage. Le commandant, si ce sont des unités à tôle naval, ils ont des systèmes de sonnerie à bord. Il peut sonner pour dire, écoutez, moi je vais du côté bâbord ou du côté bâbord, où il faut ralentir. Et quand ils se croisent, ils savent que le bateau qui est avalant a priorité sur le bateau qui est en train de monter. Mais quand c'est la nuit, il vous est un peu difficile, d'abord en pleine obscurité, que vous preniez le cas de lac Maïndombe, s'il n'y a pas la lune, c'est vraiment le noir total, et c'est à quelques mètres que vous pouvez vous percevoir. Et notamment, ils n'ont pas ce système de cloche ou de sonnerie pour pouvoir alerter l'autre bateau. Et même la signalisation, dans le bateau qui sont construits devant les normes, ils ont de fait des bords, à bâbord et à tribord, et même au niveau de poupe ou des proues, qui dit que voilà, il y a un bateau qui est devant moi, qui est en train de monter ou de descendre. Mmh. Mais pour le balitaire, ce système n'existe pas. Donc c'est l'appréciation de tout et chacun, et ce qui fait que parfois on est aveuglé, ou la fatigue, surtout qu'on a navigué toute la nuit, et c'est ce qui fait que les conducteurs n'arrivent pas à éviter au moment opportun ce genre d'incident ou d'accident.
Voilà, vous êtes armateur, matelot ou membre d'équipage, ou vous prenez souvent ces embarcations ou ces bateaux, ou vous êtes dans les Maïndombe, n'hésitez pas à nous appeler pour participer à cette émission, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Avec lui, nous parlons des normes de sécurité de la navigation.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quelles sont les normes de sécurité de la navigation? Le standard est ouvert. Appelez-nous au 081-890-63-94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Je disais tout à l'heure que des cas de naufrages des bateaux et autres embarcations sont fréquents sur le fleuve Congo, les lacs et les rivières de la RDC. Et très souvent, les bilans de ces accidents est dramatique. Les derniers cas en date est celui de la collision des deux baleinières sur les lacs Maïndombe, qui a causé la mort des 17 personnes et plusieurs disparus. Selon, d'après le vice-gouverneur de la province de Maïndombe. Alors, quelles sont les normes de sécurité et comment prévenir ces genres de situations? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec notre invité Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Constant est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Ok. Moi, j'ai des préoccupations à demander à notre invité d'aujourd'hui. La première préoccupation est la suivante. Je voulais demander à l'invité, sur la même rivière, on peut avoir combien de bateaux qui voyagent? Alors, la deuxième question que je vais encore demander, je lui demande, est-ce que s'il y a deux ou trois bateaux qui voyagent, est-ce qu'il y a-t-il communication que sur la même rivière, il y aura encore un bateau pour que l'autre qui navigue de l'autre côté qu'il sache que non, que je ne suis pas seul sur la rivière, s'il y a d'autres, comment est-ce que je peux naviguer? C'est ça les deux questions que je vais demander à l'invité aujourd'hui. Merci beaucoup.
Bien, merci. Monsieur Gabriel Mokango.
Merci, je remercie notre auditeur, Monsieur Constant. Je repasse sa première question pour dire que combien de bateaux nous devons avoir sur une rivière. Il faut dire que nous pouvons en avoir beaucoup, hein. À l'époque où le fleuve était vraiment fluide, où il y avait le boom avec du cuivre, la SCTP ex-Onatra alignait autant de bateaux, et il y avait aussi des privés qui naviguaient. Il n'y a pas encombrement sur les voies navigables. Hein, qu'ils se disent qu'il n'y a pas encombrement, on peut naviguer à la montée comme à la descente sans qu'il y ait de perturbations. Mais sauf que on doit se communiquer, c'est-à-dire comme je dis, par un signal sonore, dire que je suis en train de vous dépasser, donc vous devez ralentir, ou je vous dépasse à droite ou à gauche, hein, donc côté tribord ou côté bâbord. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais les bateaux entre eux peuvent se communiquer aussi. Et comme ça, dans le cadre de la SICOS, on est en train d'en parler pour mettre en place un système de radiocommunication avec une fréquence commune à partir desquels toutes les embarcations, toutes les unités peuvent communiquer. Par exemple, lancer un cri de détresse quand il y a des difficultés. Mm-hmm. Parfois, informer l'ARVEF sur cette fréquence que, voilà, vous nous avez dit qu'il y avait le balisage, mais nous, en apprêtant cette voie, on a trouvé que tel signal est tombé ou bien tel bouée a dérivé et n'est pas en place. Mais c'est curieux, le baleinier, à ce que je sache, n'a jamais eu ce genre de météo récepteur ou de phonie en termes vulgaires. Ils n'en ont pas. Donc, ils ne communiquent pas. Les sociétés qui sont organisées, c'est bien vrai qu'ils ont de systèmes de radiocommunication, ils ont de phonie à bord. Et certains, maintenant, avec la technologie qui est très développée, ont des touraya, hein, qui leur permettent, même là où il n'y a pas de réseau, de pouvoir communiquer. Mais c'est ce qui est recommandé, et que le bateau puisse avoir une communication entre eux, et puisse avoir aussi la communication avec une station fixe qui sera à terre, notamment, ça sera logé à la direction de la marine et de voies navigables. Mais la RVF utilise aussi des systèmes de phonie multifréquence, et nous communiquons notre fréquence auprès des armateurs. Ils peuvent de temps en temps entrer en contact avec nous pour avoir des informations, ou passer carrément à nos bureaux pour demander ce genre de formation, et nous ne leur refusons pas ce genre de service.
Lauriane Kizamina nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, c'est vrai que le sujet est assez délicat parce que nous ne parlons pas souvent de transport maritime. Mais j'aimerais savoir, au niveau il a parlé des balises. Alors, ces balises, pendant la nuit, est-ce qu'elles sont lumineuses? Il y a possibilité d'avoir de l'énergie pour permettre aux différentes baleinières de voir, par exemple, où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle de savoir l'autorité qui régule le système de transport maritime. Qu'est-ce qu'il faut pour contrôler? Parce qu'il y a les contrôles pour les transports, c'est pour voir si les véhicules peuvent circuler dans la ville. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier, par exemple, si une baleinière a, une radio, une radio pour pouvoir lancer des SOS, ou a la signalisation sonore là pour informer que je viens à tribord ou à bâbord. Qu'est-ce que l'autorité de régulation fait pour le système maritime? Et pour finir, qu'est-ce qu'il projette comme solution pour prévenir ces accidents?
D'accord, merci. Lauriane Kizamina de Kinshasa, vous voulez participer, appelez au 081-890-63-94. Monsieur Gabriel, Lauriane parle des balises. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des balises tout au long de la voie navigable, mais est-ce que ces balises sont lumineuses? Quelle est la source d'énergie qui les permet de fonctionner et d'être bien visibles?
Ok, merci. Je remercie notre auditrice de Kinshasa. Je dis que le système actuel de balise n'est pas lumineux. Hein, n'est pas lumineux, mais nous mettons le voyant avec des papiers réfléchissants que nous appelons scotélites, hein, comme on en a sur de voies routières, qui réfléchissent la lumière, donc il y a un système de projecteur. Mais je suis là avec une équipe de l'Union européenne, je suis sur le fleuve Congo. Je suis en train de faire l'état de lieu de toutes les balises, surtout au niveau du pôle ici. Nous allons mettre un système lumineux. Donc, qu'ils prennent un peu leur patience à mal. D'ici la fin de l'année, le balise à ce niveau ici, même à certains points dans le passe critique, nous mettrons un système lumineux pour pouvoir guider le navigateur. Mais je souffre que actuellement ce système n'est pas encore de mise. Pour ce qui concerne sa deuxième question, je n'ai pas bien compris parce qu'il y a eu des interférences.
Oui, elle dit est-ce qu'il existe une autorité, une structure qui contrôle, n'est-ce pas, ces différentes embarcations sur les cours d'eau de la RDC?
Ok. Il y a une structure de l'État que nous appelons la Direction de la Marine et de Voies Navigables qui joue le rôle de l'inspection de la navigation. Et cette direction a des postes que nous appelons les commissariats fluviaux et lacustres. Et c'est à ces postes qu'il y a contrôle. Avant qu'un bateau ne quitte son port d'attache, le personnel technique contrôle si toutes les normes ou le système de sécurité, de sauvetage, tout est en place. Et il délivre ce qu'on appelle le permis de sortie à cette embarcation. Mais comprenez, comme nous avons décrié bien avant, que ces baleinières quittent la nuit quand les bureaux sont fermés, c'est difficile de pouvoir contrôler. Mais nous leur demandons de pouvoir se conformer, parce qu'il va de leur intérêt.
Monsieur Gabriel, on entend souvent parler des marins et à une unité de la police qui est chargée de circuler et de pouvoir assurer la sécurité sur les voies navigables.
Oui, il y a plusieurs services qui interviennent. Hein. Là, je parle du point de vue de la navigation. Mais nous avons la police fluviale, nous avons la force navale, et ils peuvent intervenir pour des cas de sécurité. Par exemple, quand vous prenez les 600 km de Kinshasa jusqu'à la confluence de la rivière Ubangi, c'est être sans commun transfrontalier. Donc il y a tout un système, il y a des services de sécurité qui y veillent. Bon, et il est bien vrai que quand il y a un cas de détresse, de naufrage, ils peuvent intervenir pour secourir les gens. Mais quand un bateau est en navigation, ils ne peuvent pas la raisonner. Hein? Ils ne peuvent pas. À moins que j'ai des informations qu'il y a des marchandises suspectes à bord, ils peuvent demander au capitaine de bateau de pouvoir accoster pour procéder à un contrôle, voir si ceux qui sont en train de rechercher est bel et bien embarqué. Mais dans le cas, la navigation est libre. Quand un bateau qui bat pavillon RDC, on voit très bien que c'est un drapeau de la République démocratique du Congo, ou bien RC du Congo en face, du point de vue de la navigation, on ne peut pas arraisonner ce bateau, il continue sa navigation. Mais c'est au point de départ et au point d'arrivée que ces contrôles de documents, de bord, sont faits. Il faut que, avant qu'il ne quitte, qu'on contrôle que le chargement est bien fait. Est-ce que le document, certificat de jaugeage, certificat de navigabilité sont visés, ne sont pas invalides? Est-ce que le personnel qu'on utilise, le personnel est qualifié? Est-ce qu'on a autant de personnes pour un convoi de tel type? Donc ça, c'est au départ de ça. C'est seulement quand tout est rempli qu'on délivre ces documents. Mais quand vous n'avez pas réuni toutes ces conditions, à ce moment-là, le commissaire fluvial ou le chef de poste du commissariat fluvial peut vous interdire de prendre la navigation.
Mais est-ce que ces baleinières reçoivent généralement les permis de sortie? Parce que on voit la manière dont c'est surchargé. Vous avez des sacs de maïs, des sacs de les makalas, vous avez les chèvres avec et des personnes humaines mélangées dedans. Est-ce que réellement on accorde des permis de sortie à ces embarcations?
En principe, ils doivent avoir ce document et qui est mis à jour. Bon, ils doivent le faire pourquoi? Parce qu'on doit savoir que cette baleinière a quitté tel point pour telle destination, il transporte tel type de marchandises, il a autant de personnes à bord et on voit le manifeste. Et si à un point intermédiaire entre les deux points extrêmes, il y a un cas, on sait suivre le parcours, faire le traçage de l'itinéraire de ce bateau. Donc il a tout intérêt de le faire. Mais quand il ne le fait pas, et c'est difficile, et ils font des déclarations verbales que j'ai transporté autant de personnes, mais parfois quand on repêche les cadavres, on trouve que c'est au-delà de ce que lui a déclaré. Parce qu'à ce moment, il vous dit que bon, le manifeste et tous les documents de bord ont coulé avec l'unité. Donc, dans le poste, il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux. C'est comme ça que nous demandons même les préposés de ces postes de bien faire leur travail en toute conscience pour que pour ça puisse nous éviter ce genre de drame que nous pouvons déclarer. Mais ce qui est aussi malheureux, ils n'ont pas des albums de navigation. Parce que chaque cours d'eau a un album de navigation qui est une carte qui l'indique, quelle est la voie, les kilométrages, et s'il doit faire l'escale de nuit, comment il peut se repérer. Mais généralement, ils font fi de ça, ils n'ont pas ces documents. Quand bien même ils demandent qu'on fasse une mise à jour de ces documents, mais nous pensons que ces documents, nous les mettons à jour en attendant de refaire toute la cartographie du fleuve Congo et de la rivière Kasaï. Mais ils n'ont pas ces documents. Si vous demandez, je crois qu'ils se réfèrent à leur connaissance parce qu'il a navigué une fois ou deux fois sur tel cours d'eau. Il croit qu'il a bien maîtrisé le chenal de navigation et il prend le risque de conduire tout un convoi. Mais quand vous regardez, c'était des gens qui étaient de Vichy Sondeur, qui étaient de Matelot, et après avoir acheté un permis de naviguer, et il s'est fait passer pour un conducteur de bateau ou un capitaine.
Voilà, c'est dommage du fait qu'il y a un laisser-aller terrible dans ces secteurs. Et voilà, on enregistre des cas des noyades, de ces genres d'accidents à répétition. Patient Chitoko nous appelle de Lubumbashi, bonjour. Voilà, patient n'est pas là. Alors, monsieur n'est plus là. Monsieur Gabriel Mokango, vous vous apprêtez d'ailleurs à aller dans les Maïndombé pour mener sûrement des enquêtes et prendre langue avec les armateurs. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour prévenir ces genres de situations, ces genres d'accidents?
Bon, dans le processus que nous comptons mettre en place, il y a d'abord un problème de sensibilisation, d'informations auprès des armateurs. Ils doivent savoir que c'est une profession qu'ils ont embrassée et que cette profession a des normes. S'ils veulent bien évoluer dans cette profession, ils doivent suivre les normes. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et ceux qui exploitent des embarcations, ils doivent s'assurer que leurs embarcations qu'ils ont acquises répondent aux normes et qu'ils peuvent naviguer en toute sécurité. Et à ce moment-là, ils se retournent pour voir le personnel qu'ils utilisent, est-ce que ce personnel est qualifié et à même de conduire ces convois où il y a bon nombre de personnes sans qu'on déplore des incidents. Et en troisième lieu, il y a le respect du balisage qui est mis en place, qui n'est pas de destruction méchante, qu'il n'y ait pas de vandalisme. Et nous, au niveau de la RVF, nous sommes conscients de ce manquement, que nous sommes absents présentement à cette période de baisse des eaux, de la décrue, mais nous pensons que d'ici juillet, août, les eaux vont se stabiliser. Quand même ça va baisser, mais ça va se stabiliser à leur niveau, et qu'un des premiers baliseurs pourra sortir, et nous allons intervenir le plus rapidement pour remédier à cette situation.
Bien. Gabriel Mokango, directeur technique à la Régie des Voies Fluviales. Merci et bonne journée.
Merci, je vous remercie, monsieur Jeudi, et bonne journée à vous aussi.